Bonjour à tous, bienvenue pour l'émission Grand Large avec la propédeutique de Nancy. C'est un plaisir pour moi, Jean, l'un des propédeutes, des 8 propédeutes pour cette promotion, de vous retrouver en ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler du volontariat international. Qu'est-ce que le volontariat international ? C'est un moyen pour vous de vivre une expérience forte, non seulement au moment où ces choses se déroulent, mais aussi pour votre CV. Le volontariat international, c'est un statut reconnu par le gouvernement français et par les Nations Unies. C'est partir entre 3 mois et 2 ans, suivant les organismes, pour de la coopération internationale sur divers continents et divers pays. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'Asie, mais attention que nous soyons bien clairs, on peut parler aussi de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique, bien sûr. Donc, dans cette émission, je désire vous inviter à réfléchir à cette possibilité extraordinaire d'enrichir votre vie et votre CV, car c'est fort apprécié des employeurs de travailler dans un autre pays. C'est une cause forte pour laquelle vous pourrez adhérer et qui vous prendra à cœur. Des milliers de jeunes Français entre 18 et 30 ans partent chaque année et reviennent avec un bagage magique pour la vie. Durant les études, après les études ou entre deux boulots pour une reconversion professionnelle, partez entre 3 mois et 2 ans. Vous avez en France de multiples organismes, des ONG, qui recrutent et vous trouverez de nombreuses informations sur Internet. Tapez « volontariat international » et vous aurez de multiples informations. Et s'il vous plaît, ne dites pas que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'en êtes pas capable. C'est faux. Il y a un grand nombre de personnes qui peuvent partir et pensez-y. C'est ce que je veux vous montrer durant cette émission de Grand Large pour le volontariat international. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 2 organismes que je connais bien et qui recrutent des candidats pour partir à l'international. Le premier, c'est les Missions étrangères de Paris. C'est un organisme catholique. Et Enfants du Mékong, qui, elle, recrute absolument toute personne française. Pour les missions étrangères, eh bien c'est moi qui vais vous faire une courte présentation, car je suis un ancien volontaire. Il y a quelques mois, j'étais encore en Thaïlande, où j'ai vécu 1 an. Avec Enfants du Mékong, nous aurons à l'antenne Monsieur Saunier, directeur du volontariat de cet organisme, et aussi Priscille, ancienne volontaire d'Enfants du Mékong, qui a passé 1 an extraordinaire en Asie. Alors commençons avec les missions étrangères. Donc comme je vous le disais, c'est un organisme catholique qui bien entendu invite des catholiques à partir, alors que vous soyez très pratiquant ou peu pratiquant, ce n'est pas le problème. Et pour les non-catholiques, rassurez-vous, il y a bien d'autres organismes qui peuvent vous emmener voyager. Donc pour ma part, avec les missions étrangères, c'est construire l'église en Asie. Et je suis parti 1 an en Thaïlande auprès de l'ethnie des Karen. Les Karen, c'est un peuple qui vit encore de manière assez reculée du monde moderne entre la Birmanie et la Thaïlande. Mais pour mieux s'imprégner du pays, on commence par 1 mois de langue à Bangkok. Donc on s'initie au Thaï, que j'ai appris bien entendu les rudiments. Pomput pasatainit noi krap, je parle un petit peu Thaï. Et après ce mois à Krung Thep, la cité des anges, cette fameuse ville de Bangkok, on m'a envoyé pour près de 11 mois dans le nord-ouest. Donc toujours auprès de ces Karen, où j'étais assigné dans un charmant petit village, dans la jungle, dans une coopérative de tissage et de couture qui permet aux femmes d'avoir un emploi stable au sein de leur village natal. Je vivais assez éloigné, voire très éloigné de la grande ville et de notre monde. Et je vivais avec Nathalie. Nathalie, c'était ma colocatrice, une jolie belle blonde, qui est un singe gibbon. C'était le singe apprivoisé des volontaires. une expérience unique que les missions étrangères offrent. Donc, j'accompagnais de manière entrepreneuriale la coopérative, mais les missions étrangères, et vous pourrez le retrouver sur leur site, le volontariat des missions étrangères, propose de multiples postes et recherche de multiples profils pour partir dans cette aventure extraordinaire. Donc moi, dans ce village, j'avais appris le thaï, mais il a fallu que je me mette au karen aussi. Et on est complètement imprégné de cette force et de cette culture karen. On vit dans le village, on joue avec eux, on fait la fête avec eux, on travaille avec eux. Et cette expérience, après un an, on peut rapporter et enrichir son curriculum vitae. Et ça, et je vous le dis à vous les jeunes, entre 18 et 30 ans, aujourd'hui avoir une expérience à l'international, c'est indispensable. Et le volontariat est une expérience pour pouvoir remplir cette case-là. Voilà pour ce qui est des missions étrangères. Donc maintenant, nous allons parler d'enfants du Mékong, mais avant cela, une pause musicale avec une musique thaï.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 잠든염래쇼에든로단후송잠재양래수의든로단후펜구라떨러빠이
Bonjour Monsieur Saunier, bienvenue sur l'antenne de Fadjet.
Oui, bonjour Jean.
Alors, vous êtes responsable du volontariat à Afon du Mékong et nous sommes ravis de que vous participiez à cette émission du volontariat international.
Merci à
vous. Donc, j'aurais trois questions à vous poser.
Oui.
Qu'est-ce qu'un volontariat avec Enfants du Mékong ?
Alors, le volontariat avec Enfants du Mékong, eh bien, il est basé sur le fait que le cœur de l'action d'Enfants du Mékong est l'aide à la scolarisation des enfants par le biais du parrainage. Et à ce titre, on a pu mettre en place depuis presque 58 ans maintenant, et depuis 26 ans pour le volontariat, des programmes de parrainage et des foyers et des centres scolaires pour aider à la scolarisation des enfants et des jeunes. Alors, à ce titre, toutes nos missions sont axées sur la coordination de ces programmes de parrainage et de ces projets de développement sous la responsabilité de responsables locaux. C'est une des forces d'Enfants du Mékong, c'est effectivement de se baser sur l'accompagnement des structures et des responsables locaux. C'est pas nous qui arrivons avec nos propres projets, c'est toujours sous l'égide d'un responsable local. Et nos missions sont donc des missions de service auprès de ces populations locales, auprès de ces populations pauvres, avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup d'autonomie, et dans le cadre du volontariat de solidarité internationale, ça permet à nos jeunes qui partent avec nous d'être vraiment sur une rampe de lancement, j'allais dire, de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
D'accord. Alors pour ces jeunes, justement, est-ce que vous pourriez nous décrire le profil des candidats qui vous intéressent à Enfants du Mékong ?
Alors je dirais que c'est toujours difficile ce genre de question, dans le sens où il n'y a pas de profil type, si ce n'est que ce qu'on demande est dans les différents entretiens, puisqu'il y a plusieurs entretiens de volontaires qui viennent chez nous. On essaye toujours de savoir ceux qui ont une vraie envie, une envie sincère de se mettre au service des autres. Ça, c'est le premier critère qui nous importe. Parce que ce sont des missions de service, pardon. Et le deuxième critère qui est très important, c'est évidemment la stabilité psychologique du candidat, car les candidats vont être soumis à des missions qui vont affecter leur équilibre psychologique par l'éloignement géographique et puis j'allais dire même les schismes idéologiques qui y sont inhérents. Et donc on a besoin de s'assurer que les jeunes sont stables. Il y a manifestement une perte de repères quand on part à 12 000 km et surtout pour une longue durée puisque les volontariats sont des volontariats d'une année. Et donc il est évident qu'on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur cet équilibre et cette stabilité. Mais je dirais que le premier critère qui doit vraiment ressortir, outre les motivations qui sont liées, c'est effectivement la vraie envie de servir au-delà d'une expérience un peu professionnelle qu'on pourrait mettre sur son CV. On a effectivement ce genre de candidats parfois qui arrivent en disant voilà, j'ai fait un master 2, j'ai telle expérience en humanitaire, je suis la bonne personne. Et ben c'est pas forcément la bonne personne. On a parfois des gens qui ont une vraie volonté de servir, qui ont fait différents types d'études et qui conviennent parfaitement pour ces missions de coordination de programme ou de responsable de foyer et de centre.
D'accord. Combien de volontaires envoyez-vous par an ?
Alors, actuellement, on envoie entre 60 et 70 volontaires tous les ans. Donc, c'est une belle promotion qui part chaque année à l'été. Et sur ces 60 volontaires qui sont sélectionnés, on les prend sur un ensemble de 300 candidatures à peu près qui nous arrivent chaque année. Et sur ces 300, on en reçoit à peu près entre 100 et 120. En entretien.
D'accord. Oui, puis voilà. je reviens aussi aux missions étrangères. Eux envoient 150 volontaires par an, en sachant que ce n'est pas la même durée, c'est entre 3 mois et 2 ans pour les missions étrangères. Et vous, c'est un an, à peu près 60 à 70 personnes.
Voilà, on s'inscrit toujours dans le cadre du contrat légal de volontariat de solidarité internationale, puisqu'on est nous-mêmes agréés, mais c'est des contrats qui sont de minimum un an.
Mmh. Et quelle est je parlais tout à l'heure des CV, la valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée d'un volontariat dans sa vie, une fois qu'on revient pour le volontaire lui-même?
Oui. Alors, eh bien, j'allais dire, c'est une valeur ajoutée qui est très importante, et du fait des responsabilités et de l'autonomie qu'on donne aux volontaires sur le terrain lorsqu'ils sont sur leur mission, eh bien, ils arrivent à acquérir, s'ils n'ont pas déjà, une vraie capacité managériale, si on veut parler d'un plan purement professionnel, au niveau de la prise de décision, au niveau de l'analyse des situations, de la synthèse des situations, généralement, ça leur fait faire des progrès énormes. Et puis, je dirais que peut-être que le plus important, c'est sur le plan personnel, parce que du fait de la diversité des gens rencontrés, des différences rencontrées, des pauvretés rencontrées, eh bien, il y a une valeur ajoutée qui est sans doute plus personnelle, qui est le changement de regard qui s'opère sur ces mêmes différences. Et quand on rentre, pour avoir été moi-même volontaire il y a quelques années aux Philippines, eh bien, on porte un regard tout différent sur les gens, sur les situations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ou qui ne nous sont pas forcément familières. On a un regard qui est beaucoup plus, j'allais dire, plus aimant ou plus accompagnant, en tout cas, sur ces situations ou sur ces personnes.
Ouais, c'est un peu ce que j'avais ressenti personnellement de vivre un an en Thaïlande. Ça permet d'observer la France de l'extérieur, et c'est pas plus mal d'avoir ce nouveau point de vue.
Complètement. Et ce qui est important aussi peut-être à ajouter pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est de placer cet engagement potentiel sur un volontariat de longue durée, pas sous le sceau d'un risque encouru. Il y a des risques de partir, on s'engage, mais les risques encourus sont beaucoup moindres par rapport aux valeurs ajoutées d'une telle expérience en Asie, et qui, elles, ces valeurs ajoutées sont, je dirais, beaucoup plus infinies que les risques.
D'accord. Tout cas, Monsieur Saunier, d'Enfants du Mékong, responsable du volontariat Enfants du Mékong, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Et donc, nous allons passer la parole à Priscille, qui, elle, est une ancienne volontaire d'Enfants du Mékong, et qui va nous parler, tout comme moi, un petit peu de ce qu'elle a vécu.
Voilà. Et elle était aux Philippines aussi.
Donc, nous allons d'abord faire une courte pause musicale. Bonjour Priscille. Alors vous êtes une ancienne volontaire d'enfants du Mékong et nous avons quelques questions à vous poser.
Bonjour. Alors,
pourquoi êtes-vous partie ?
Alors pourquoi je suis partie en mission de volontariat ? C'est arrivé en fait à un moment dans ma vie où, après des études en marketing, 2 années d'entreprise, je me suis dit que j'avais vraiment besoin, moi, de mettre ma vie au service des autres et de redonner en quelque sorte un peu ce que la vie m'avait donné depuis que je suis toute petite, parce que j'étais gâtée, bien entourée, dans un environnement confortable, et je me suis dit que c'était pas la même chose partout dans le monde, et j'étais vraiment animée par cette envie d'être utile, de donner un sens à ma vie et avoir un impact sur la société dans laquelle je vis. Enfin, dans le monde dans lequel je vis. Et du coup, j'ai fait la rencontre d'enfants du Mékong, donc il y a ça 2 ans maintenant, grâce à une amie qui m'en a parlé. Et pour moi, c'était vraiment la réponse à toutes mes questions, en me disant, bah voilà, en allant partir, en allant découvrir ces pays, leur culture, et tout en sachant que c'était des pays qui vivaient dans une extrême pauvreté, je me suis dit que là-bas, tout ce que j'allais entreprendre allait avoir un impact, et c'est ça qui me rendait heureuse, voilà, et c'est ça qui m'a motivée à partir et à passer les sélections.
Bon, en tout cas, mais très beau témoignage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre mission ?
Alors, moi, j'étais responsable du centre de Cebu, donc j'étais aux Philippines, qui est un des 7 pays qui aide enfants du Mékong. Et donc dans ce centre, moi j'avais plusieurs responsabilités. J'avais des responsabilités administratives, c'est-à-dire que je faisais tout ce qui était comptabilité, finance, budget, etc. Je distribuais aussi l'argent aux étudiants et en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Voilà, c'est moi qui m'occupais de ça. Je m'occupais aussi de tout l'aspect parrainage, parce qu'en du Mékong, c'est une ONG de parrainage, donc je vais m'occuper de la correspondance entre les parrains et les étudiants. Je m'occupais de tout ce qui était maintenance du centre, bien entendu, du suivi scolaire des jeunes, parce que moi je m'occupais donc de ils étaient 60 étudiants à l'université, hein, ils faisaient des études de comptabilité, de marketing, d'ingénieur, voilà, c'était vraiment l'aboutissement de tout cheminement de DM, et moi je les suivais avec une assistante sociale et on regardait tout leur parcours universitaire, savoir s'ils avaient besoin de cours supplémentaires, etc. Et on allait à la rencontre de leurs universités pour voir si si leur niveau était assez bon, s'il fallait qu'ils fassent des efforts, etc. Enfin, on était vraiment les... Enfin, moi, j'étais un peu la maman de ces 60 jeunes, voilà. j'avais aussi un rôle de recrutement. C'est-à-dire que dans le foyer, dans ce centre, tous les ans, il y a un recrutement pour une nouvelle promotion. Et j'avais cette lourde responsabilité de faire passer les sélections à des jeunes philippins dans le besoin, d'aller visiter leur famille, voir et sélectionner lesquels étaient les plus motivés et bien sûr les plus en situation de demande et de besoin d'aide financière et pour aller réaliser leurs rêves, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était beaucoup de missions. Je sais pas, je pense que j'en ai pas trop oublié, mais c'était intense en tout cas. Voilà.
Oui, j'ai l'impression. Moi, il y avait d'autres aussi pour les missions des missions étrangères de Paris. Il y en avait qui étaient un peu plus relax, mais aussi tout aussi intense et tout aussi riche. Et j'ai l'impression que c'était le cas pour la vôtre aux Philippines. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que cela vous a apporté?
Alors. Ça apporte énormément sur deux niveaux, je dirais au niveau professionnel et personnel tout simplement. Au niveau professionnel, on apprend énormément en management humain, parce que c'est 60 étudiants, mais c'est aussi une petite équipe, on encadre aussi une petite équipe de personnes, une assistante sociale, un responsable du foyer des garçons, un responsable du foyer des filles, qu'on appelle les house parents, donc il y a une mission de management humain. Il y a on apprend aussi à prendre des décisions qui sont pas faciles de temps en temps, hein, surtout quand on va sélectionner les jeunes. On les voit, ils sont vraiment tous dans le besoin et il faut réussir, voilà, à prendre les bonnes décisions, à pouvoir détecter la personne qui ira le plus loin grâce à Enfants du Mékong, voilà. Sinon, en termes professionnels aussi, j'ai vraiment amélioré moi mon expression orale en public. C'est vrai qu'avant j'avais peur de ça et voilà, aux Philippines, tout le monde prend le micro, même quand on a 2 ans, on arrive à faire des speeches sans problème. Donc ils m'ont beaucoup appris sur ce point de vue-là. Au niveau de l'organisation aussi, ça c'était très important, parce que quand on manage un centre avec autant d'étudiants qui ont des vies très rythmées, des plannings différents, enfin voilà. Et puis ça apprend aussi l'audace, le dépassement de soi, quand il faut aller rencontrer des directeurs d'université pour négocier par exemple des prix des cours qu'on leur fait suivre, ou alors aller négocier avec l'hôpital quand un de nos jeunes est malade. Voilà, c'est vraiment, ça nous apprend cette audace, ce dépassement de soi. Et je reviens aussi, c'est un peu lié du coup à tout ce que ça m'a apporté personnellement, parce que quand on part à la rencontre des peuples asiatiques, je pense que ça doit être pareil pour ailleurs, hein, mais c'est surtout ces peuples qui nous apprennent que l'importance du moment présent, et c'est ça en fait. En les côtoyant, j'ai appris que le bonheur existait dans ces petites choses qui faisaient le quotidien. Ces discussions qu'on avait ensemble, ces parties de rire qu'on avait ensemble, et c'est ça qui était incroyable. Et puis aussi le bonheur qu'on a à faire de simples rencontres, et que le bonheur existe en fait dans la relation à l'autre, et ça c'est très important. Et j'ai aussi découvert ce qu'on appelle le trésor du don, en fait. C'est que voilà, quand on part pour donner un an de sa vie à des jeunes qui sont démunis, en fait, le fait de donner de son temps, de partager avec eux ces moments, ça nous donne une joie immense, en fait. C'est vraiment ça. Ce que ça m'a appris. Ouais,
ça a l'air assez intense. Et puis pour votre retour en France.
Oui, alors mon retour, alors ça c'est la grosse question, hein, et je me la suis posée bien avant de partir. Alors moi j'avais la chance, parce qu'en ayant travaillé 2 ans, Comme j'ai démissionné et que le cadre, enfin le contrat qu'on signe avec Enfants du Mékong, c'est un volontariat de solidarité internationale. C'est un contrat un peu particulier qui peut être qualifié en tout cas quand on démissionne pour un contrat comme ça, on démissionne, la démission est légitime et du coup on peut avoir le chômage, ce qui peut aussi permettre à certaines personnes de partir un peu plus sereinement. C'était mon cas parce que moi, quand je suis rentrée, j'étais plutôt déboussolée parce que je me voyais plus du tout revenir dans le travail que je faisais avant. J'étais gestionnaire d'achat d'objets promotionnels et même si c'était très intéressant, etc., je voyais plus aller dans une entreprise qui n'avait pas un impact positif sur la société, ou en tout cas qu'il ne le montrait pas ouvertement, et si c'était pas dans son ADN, moi ça ne m'intéressait pas. Et donc du coup, c'est vrai que c'est difficile quand on revient, on se dit bon, il faut qu'on retrouve du travail, mais déjà on met quelques mois à atterrir, l'Asie nous manque, les jeunes nous manquent, et en plus on se dit, on a cette pression qui se dit, bon, voilà, je veux pas que cette année ait servi que pour moi, j'ai envie qu'elle serve encore dans ma vie de tous les jours, et ça passera par mon travail, et du coup, ben voilà, la problématique, c'est quel travail et qu'est-ce que je peux mettre en avant pour aller taper à la porte d'entreprises et de leur vendre cette expérience, justement, tout ce que j'ai appris au niveau professionnel et personnel. Et donc, moi, j'ai eu la chance, pour le coup, parce que Enfants du Mékong m'a donné l'opportunité d'intégrer l'association juste après, en tant que chargée de partenariat. En tant que chargée de partenariat entreprise, voilà, de l'association, pour chercher des fonds pour Enfants du Mékong auprès de fondations d'entreprises, voilà, et du coup, moi, ça m'a permis de rebondir, mais il faut savoir qu'avec Enfants du Mékong, en fait, on n'est jamais seul sur le retour. On est accompagné, on est coaché, on a un week-end qu'on appelle week-end rebond, qui dure 2 jours et qui nous permet de nous retrouver tous les volontaires ensemble, tous les bambous ensemble, et de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour avancer et faire profiter à la France de tout ce qu'on a appris sur place. Et donc voilà, donc le retour est certes difficile, mais avec Enfants du Mékong, on est vraiment soutenu et accompagné.
Oui, ça fait beaucoup, ce que vous dites, Priscille, fait beaucoup écho à ma propre expérience et aux amis que j'ai pu me faire avec les missions étrangères, mais aussi avec des anciens volontaires d'Enfants du Mékong. Les missions étrangères collaborent beaucoup avec Enfants du Mékong. Et cet aspect du retour et de retrouver ses stabilités en France avec un tout un nouveau regard demande quelques semaines, quelques mois de réadaptation. Mais il y a vraiment cet engouement très fort et très puissant. En tout cas, merci beaucoup pour ces interventions, Priscille et Monsieur Saunier d'Enfants du Mékong. Donc vous pouvez bien entendu retrouver sur Internet Enfants du Mékong et Missions étrangères des informations supplémentaires, et les autres organismes, alors on n'en a parlé que de deux, mais il y a bien d'autres organismes de volontariat pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Afrique, donc n'hésitez pas. J'espère que cette émission de grand large avec la propédeutique de Nancy vous a montré, vous a donné le goût, donné l'envie de postuler à ces organismes pour un volontariat international. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne journée et vous souhaitons une bonne continuation sur les ondes de Fadjet.